Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 1h02 du matin, messieurs, dames, c'est l'after qui est là jusqu'à 5h. La nuit de l'after continue, évidemment, ce sera comme ça jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à la finale, le 19, à New York. Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, nous sommes toujours au dos pour le restaurant de l'after à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. Samuel Umtiti, lui, est avec Jean-Louis Tour au stade à Boston pour encore quelques petites minutes. Écoutez, Ousmane Dembélé, les gars, c'était il y a quelques instants, à peine dans la zone d'interview.
Yeah. Ousmane, demi-finale de la Coupe du Monde, je le répète parce que ça sonne bien aux oreilles, demi-finale de la Coupe du Monde. Comment on sent, Ousmane ?
Bah, très content. Voilà, on voulait aller jusqu'à cette demi-finale. On était vraiment très concentrés sur ce match. Voilà, c'est la troisième demi-finale pour moi en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc non, c'est que du bonheur, que du plaisir. Et on va rester concentrés pour ce qui va venir.
Racontez-nous votre but, parce qu'il délivre, le match, il assoit complètement, je dirais presque la victoire. Racontez-nous ce but qui est absolument une petite merveille, mon cher Ousmane.
Bah, très, très simple, juste avant, 2-3 minutes avant, Kylian m'a dit de rester un peu plus dans l'axe, que dès qu'on va avoir un ballon, il va falloir y aller. Il fait une très belle course qui m'ouvre un peu tout le chemin, et voilà, je voulais seulement la cadrer pour pouvoir que ça rentre dans le but, et voilà, je suis content.
Une dernière question. Ils étaient 15 millions ce soir, les Français, devant leur télévision. Un petit mot pour eux qui n'ont pas la chance d'être dans le stade, malheureusement.
Bon, on est très contents, on voit tout leur soutien à travers toute la France. Voilà, on va avoir aussi besoin d'eux pour ces demi-finales, pour pouvoir aller au bout. Et voilà, on va rester concentrés, on sait que ça va être pas facile, mais voilà, on est contents de tout leur soutien.
Merci Ousmane, bonne continuation.
Voilà pour Ousmane Dembélé. Ce qu'il a dit dans l'interview, je l'avais dit juste avant.
Bon.
Donc, anticiper ces mots.
Tu veux dire que ça servait à rien d'écouter ?
on va faire quand même le point textile.
Oui, alors Samuel. Donc évidemment, ouais, comme d'habitude. Bon, comme d'habitude, tu étais élégant, mais là ce soir il y avait une petite touche un peu particulière. Donc nous avions cette veste noire et non pas un t-shirt col rond classique, mais échancré.
Exactement.
Un col échancré. La question qu'on se pose. Oui. En dessous, manches ou bretelles ? Ou t'es allé jusqu'au look Max Chano avec les bretelles en dessous ?
Bretelles en dessous. Ouais, parce qu'il fait très chaud. Et je l'ai vu la dernière fois à Philadelphie, j'ai souffert. Donc je me suis dit là, stade ouvert, il fait très chaud. Je vais mettre.
Donc échancré, petit Marcel et veste.
Exactement, exactement. Je suis en train un peu de changer ce qui se fait à la télé parce que normalement, on doit mettre la cravate, mais bon, je leur ai dit que pour moi, c'était pas forcément ma DA. Et là, bah, j'ai voulu innover un peu.
Bon, allez, on va dire que ça peut tout porter, va.
Excellent. La DA est excellente.
Non, franchement, t'as vu qu'on a rien raté.
J'avoue que t'as un peu ringardisé certains.
Ouais. Est-ce que la DA de Jean-Louis, tu valides la DA de Jean-Louis ?
Oh mon Dieu, s'il est encore avec sa casquette et ses vieilles lunettes moisies, là, ça va pas du tout.
Mais non. Non. Tout va bien. On va dire, c'est très chill, très.
Un effort, là.
Oui.
Un effort. Ouais, chill.
À mon niveau, c'est un effort. J'ai mis un t-shirt blanc quand même, un t-shirt propre.
Bon, après cette parenthèse dont tout le monde se fout,
on s'en fout pas, jamais.
Revenons à Dembélé. Les gars, Jean-Louis, comment t'évalues son match ?
Écoute, Dembélé, je le mets autant Olysée très discret, j'étais d'accord, et surtout il y avait beaucoup trop de gens autour de lui, c'était dur d'exister. Autant Dembélé, et le seul truc qui me manque par rapport au Dembélé qu'on connaît, c'est les provocations en un contre un, d'aller tenter sa chance contre son vis-à-vis et de l'éliminer. Ça, je trouve que je le vois pas assez par rapport au Dembélé normal. En revanche,
il parlait de mental. Même.
Bah, y a le but, bien sûr. Il parlait de mental, mais il élimine pas sur le but. Le chemin s'ouvre et il arrive à finir. Mais en revanche, il parlait du mental de Mbappé. Le sien aussi, je trouve, est remarquable parce que quel que soit le match, il continue toujours les mêmes efforts, toujours de provoquer, toujours d'être connecté avec les autres dans le match. Donc, c'est pas le Dembélé le plus flamboyant qu'on ait jamais trouvé, mais quand même, il marque. Il marque encore ici, d'ailleurs, à Boston où il avait mis son triplé. Donc, ça reste quand même une attitude de Ballon d'Or.
Bon, voilà pour les quatre de devant, en sachant que si c'est l'Espagne a encaissé zéro but depuis le début de la Coupe du Monde. Hein. Zéro but, donc il y aura là.
Il n'y aura pas besoin de leur en mettre beaucoup, hein. Ça nous ravira.
Bon, très bien, vu comme ça. Tu voulais parler des milieux, Kevin, donne ton avis et ensuite on demandera à Samuel ce qu'il en a pensé.
Bon, déjà, dire quand même que Manu Koné a été très très bon.
Très bon.
Et Tchouaméni est oublié ?
Non, pas oublié.
C'est malheureux, mais c'est la compétition. T'es blessé, tu ne pas. Si l'autre est bon.
Ah ben, il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de.
Moi, je pense que c'est lui et Tchouaméni reviendra en demi.
Ah, tu penses ?
Non, je pense pas.
J'en suis sûr aussi, moi.
Ah ouais, c'est pas forcément sûr parce que là, il a.
C'est-à-dire, il revient, tu dis, t'en es sûr ?
Non, ce dont je suis sûr, c'est que s'il revient en pleine possession de ses moyens, il est titulaire et Manu Koné sera soit sur le banc. C'est ça que je veux dire.
Après, attention, parce que Manu Koné, aujourd'hui, ce que j'allais dire, c'est qu'il a quand même été très agressif, il a défendu en avançant, il a fait du Manu Koné, il a été gratté des ballons. Aurélien Tchouaméni est un joueur beaucoup plus de structure contre les Espagnols. Va falloir aussi aller les agresser, va falloir aussi leur imposer quelque chose. Je pense que Manu Koné a peut-être un rôle à jouer. Mais celui que j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'on en parle très peu, mais c'est Adrien Rabiot. Pour moi, Adrien Rabiot, c'est vraiment celui qui met de l'huile dans les rouages. C'est celui qui est quand même très juste techniquement. Il fait jamais des passes transcendantes, mais par contre, c'est toujours très propre. Il perd très peu le ballon. Et je trouve qu'il fait, sans qu'on en parle beaucoup, une grande Coupe du Monde.
Donc, tu n'envisages pas Tchouaméni Koné ?
Non, Tchouaméni Koné, non. Pour moi, j'envisage soit Rabiot.
Le retour de Rabiot Tchouaméni, si Tchouaméni est à 100%.
Samuel, t'en dis quoi ?
Manu Koné, très fort, très, très bon. Il a récupéré énormément de ballons. Gros volume de jeu. Après, comme je l'avais dit moi déjà, c'est que on a la chance d'avoir ces trois-là qui tournent et ça marche très bien. Dès qu'il y en a un qui est pas là, celui qui rentre est performant. Tchouaméni aussi est capable. Le dernier match qu'il a fait, il a récupéré énormément de ballons. Il a été présent. Il a fait son job. Donc, je pense qu'il y a quand même une hiérarchie et que si Aurélien Tchouaméni revient à 100%, c'est lui qui va reprendre sa place. Mais il faut.
Mais le manque de rythme, Samuel.
Le manque de rythme, après, il a pas, on est sur une compétition, c'est assez court, on va dire, c'est pas comme si c'était 2 semaines ou 3 semaines qu'il loupait, mais, en tout cas, ça va être au staff de voir ça, mais s'il revient à 100%, je pense qu'il va reprendre sa place, mais on a maintenant un Manu Koné, on a des certitudes claires avec lui et qu'il est capable d'être titulaire. C'est pas seulement un remplaçant, il peut être titulaire et performer comme il l'a fait aujourd'hui.
Bon, je sais pas s'il faut évaluer la défense, parce que vu le boulot qu'ils ont eu
après,
à faire ce soir.
Après, Mécano, c'est encore énorme quand même. Chaque duel, c'est duel remporté.
Alors, tu sais ce qui est
couverture tout terrain. Le mec, c'est un 4-4, quoi. Le mec, c'est un 4-4, c'est couverture tout terrain, à droite, à gauche. Bon, même Saliba fait son match, mais je veux dire, c'est. Kevin, Mécano, c'est monstrueux.
Kevin, il est 1h09.
On dirait Samuel Umtiti.
1h09 d'after. Et on n'a pas dit un mot des défenseurs.
Oui, ils ont rien fait. Ben voilà. Mike Maignan, je connais pas la couleur de son maillot.
Les défenseurs,
ils ont été sérieux. Ils ont été sérieux.
Les défenseurs ne sont pas sollicités. Sérieux. Et donc, tu as parfaitement raison de parler d'Upamecano, qui est une espèce de taulier, de mur, de référence totale derrière. Tu fais bien, mais c'est dingue parce que il faut plus d'une heure d'after pour qu'on dise un mot des défenseurs. Ça,
Lucadine,
très
Lucadine,
sur le début de match, il a fait deux.
Lucadine, plutôt bon.
Il a fait deux petites boulettes en début de match.
C'est vrai.
Des petits ballons.
Daniel, je renchéris. Il est 1h10. Personne ne m'a fracassé Koundé.
Oh, Koundé fait son match aujourd'hui. Après, il n'a pas eu grand chose à faire. Il a bien couvert. Je trouve que il a fait son match. Lucadine se dit, j'ai trouvé très bon, très rassurant, très sûr.
En revanche, Koundé, si quelqu'un me dit et m'assure à 100% que les cheveux aujourd'hui avec le bandeau, ça ne le gêne pas, je ne crois pas. Vous pouvez me trouver les plus grands spécialistes capillaires du monde. Vous venez avec tous les coiffeurs. Je mets ma main à couper que c'est gênant.
Mais que pour le look, il a pu jouer. Non, il a été performant, même comme ça. Oui. Donc on s'en fout.
Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il perd 10% à cause du look.
Est-ce qu'il gagne pas les 10% parce qu'il a un meilleur look?
Parce qu'il est à l'aise. Et
parce qu'il se sent bien.
Parce qu'il se regarde dans le miroir, il est là.
C'est possible. Ça, les 10%,
sur les 10%,
tu les connais.
Il regagne 5% grâce à ça.
Exactement.
C'est pour ça qu'il était performant alors. Ouais. Okay, c'est pour ça qu'il s'est mieux senti.
Mais s'il prend un ailier qui veut lui faire mal, les 5%, bon, il va les payer.
Ouais, je suis pas sûr.
Excusez-moi, mais si on en vient dans l'évaluation de la
Coupe. Parce qu'honnêtement, c'est comme un gros bonnet.
Après un quart de finale de Coupe du Monde. À dire du mec.
L'after, c'est aussi ça, l'after. C'est le
look. Oui, Samuel. Me dis pas que ça le gêne pas, Samuel, s'il te plaît.
Mais ça le gêne pas, sinon il aurait pas mis ça quand même.
Ah, tu vois, Samuel.
Mais c'est pas parce que je vais pas dans ton sens que. Bah, toi, tu penses ça, moi, je pense autrement, et c'est comme ça, mais on va lui demander. Ah, vous savez quoi? Vous savez quoi?
Vous savez quoi?
Je vais lui demander. Voilà. On fera un retour là-dessus.
Ouais, mais tu lui demandes de répondre honnêtement, mais il va te dire non, évidemment qu'il va te dire non. Moi, c'est plus un coiffeur que j'aimerais avoir.
Tu vois, il répond déjà à la place de Koundé, mais donc ça sert à rien que j'aille lui demander.
Tu lui as dit, c'est vrai que ce gros bandeau, là, quand il fait 35.
Mais ouais, évidemment, ça lui chauffe la tête. Samuel. Mais il fait 35 degrés, me dis pas que ça chauffe pas la tête. Le bandeau, dans tous il les est cas, énorme.
Avec les tresses et avec ce qu'il a, ça lui chauffe la tête dans tous les cas. Donc peut-être qu'il sent mieux comme ça.
Ah, tu vois, il l'a dit. Il a fini par l'avouer, ça lui chauffe la tête.
Je vous le laisse si vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous avez raison.
Samuel, je sais que vous allez bientôt devoir quitter le stade. C'est ça. On va mettre dehors. Tout à l'heure, Kevin commençait à parler du match de demain entre l'Espagne et la Belgique, futur adversaire de la France. Toi, tu penses que l'Espagne est largement au-dessus? En plus, tu les connais bien, là, tous.
Largement au-dessus, elle est au-dessus. Collectivement, elle est au-dessus. Mais pour moi, on n'a pas encore vu l'Espagne, en tout cas, jouer comme elle devrait jouer. Ça manque.
C'était mieux le dernier match, hein, Sam, quand même. Hein.
Oui, c'était mieux. Mais pour moi, ils m'ont tellement habitué à quelque chose de meilleur, de mieux, dans tout, hein, même dans les passes, dans les transmissions, dans le mouvement, dans les connexions. Bah moi, honnêtement, j'ai moins vu ça, mais ils ont quand même gagné leur match. Et face à la Belgique, pour moi, qui est cette équipe qu'on les attendait pas forcément là. En tout cas, moi, pour ma part, je les attendais pas là, mais ils sont là. Il faudra faire attention à ce qu'ils vont proposer. Et pour moi, ça peut être une équipe, on n'en parle pas forcément, mais ils font leur bout de chemin, et que peut-être face à l'Espagne, ça va encore payer, hein. Ça va encore payer. Sûrement. Peut-être.
Les gars, on vous laisse parce que vous allez vous faire mettre dehors du stade. Jean-Louis, yes, Samuel, yes. Merci.
Allez,
à mardi. Et dans quelques instants, à mardi, bien sûr. Et dans quelques instants, petite recrue.
Jean-Louis,
peu de coaching. Bah non, il a du boulot.
Il dit à mardi. Ouais.
Didier Deschamps est de retour dans la zone d'interview. Ah, c'est parti avec Fabrice Hawkins.
Oui, Didier, félicitations déjà pour la victoire. On va essayer d'avancer un petit peu sur l'histoire et par rapport aux questions que vous avez déjà eues, j'imagine, sur cette demi-finale qu'on attend tous. Vous avez des bons problèmes à gauche, Bradley Barcola, Désiré Doué, Manu Koné a fait un gros match aussi.
J'ai des solutions, donc j'ai beaucoup de solutions. Mais c'est très bien comme ça. Il y en a qui commencent et comme je vous l'ai dit depuis le départ, je veux que celui qui commence il soit bon et celui qui rentre qu'il soit bon aussi. Donc voilà. Après c'est des profils différents. Si je fais le choix aujourd'hui de Dez pour commencer, c'est par rapport à l'adversaire qu'il avait en face de lui et je pense que déjà ça a limité Hakimi dans ses montées. Et puis même si c'est un très très grand joueur, voilà, s'il est plus en difficulté pour défendre, c'est plus à l'intérieur sur son pied gauche que sur son pied droit à l'extérieur. Donc Dez a un peu plus cette capacité là à rentrer à l'intérieur.
Important aussi de donner du temps de jeu à Warren Zaïre-Emery. Manu avait une possibilité d'avoir un deuxième carton.
Enfin, oui, il y avait ça, et puis un petit problème au genou. Ça tire aussi au niveau des muscles. Ben, Warren, même s'il n'a pas eu une minute de jeu, il se tient prêt, il est à fond. Et avec la rentrée qu'il fait, oui, il pourrait être un titulaire dans beaucoup d'équipes, même dans l'équipe de France. Après, j'ai des choix à faire. Ils se tiennent tous prêts. Voilà, c'est ça qui est important.
La clé, Didier, des Bleus, c'est quoi? C'est la persévérance.
Oui, alors d'abord,
mais c'est pas ça que j'allais faire.
Ah ben non.
Non, c'est quoi?
Ça aurait été sympa de votre part, mais c'est les étrangers qui la font.
C'est la passion, c'est la persévérance. C'est quoi quand on voit les physionomies du match Paraguay là, le Maroc.
Non, Paraguay, ça n'a rien à voir. Oui, là, celui-là, on a fait ce qu'il fallait en première mi-temps. Bon, au-delà du penalty arrêté, on a trois occasions. On n'a aucune occasion contre nous. On a cette capacité, oui. Et si on avait plus d'efficacité, déjà, on pouvait avoir un peu de marge en première mi-temps. Mais avec les efforts que doivent faire l'adversaire pour récupérer le ballon, forcément, au fil du match, ça pèse. Il y a un peu plus d'espace. Et on a aussi cette capacité d'aller presser, d'aller chercher, et de ne pas laisser respirer l'adversaire. Mais ça vient aussi des joueurs offensifs qui mettent beaucoup d'énergie. Pour arriver en demi-finale, il faut beaucoup de choses. Évidemment, il faut de la qualité, il faut de très bons joueurs, il faut marquer des buts, il faut avoir un milieu de terrain qui est intelligent, équilibré, une défense efficace aussi. Donc, on a ça. Je dis pas que le Maroc n'avait pas. Bon, il y a une équipe qui a commencé que j'attendais pas au départ, mais après, bon, ça c'est le choix de mon collègue. Mais et l'étape prochaine en demi-finale, voilà, on aura aussi fort que nous, mais. Il n'y aura qu'une place à aller chercher.
Vous rigolez sur la clé des champs, mais finalement.
Non,
je vais pas. Non, c'est fort ce que vous faites avec quatre offensifs. C'est fort ce que vous réussissez à faire. Parce qu'on ne vous attendait pas forcément dans ce registre.
Mais arrêtez, si vous
sur une grande compétition dernièrement.
À Deroy, vous savez comment on a joué? Il y avait Griezmann à la place de Michael Olivier, il y avait Kylian, il y avait Olivier et Ousmane. C'est où ils sont pas quatre?
Non, totalement.
Ben oui, mais je sais pas, moi. Vous êtes en train de pérer des yeux depuis, non, mais.
Comment está Kylian?
Está bien, tiene un.
Ah, bon, bah là, si on passe sur des réponses en espagnol.
C'est Deschamps ou c'est son frère? Vous avez entendu quand même, c'est d'abord il parle de pressing et d'attaquants qui vont chercher haut. On l'a dit mille fois, ce qu'il a répondu à Fabrice. Oui, au coup d'envoi à Doha, il y a quatre joueurs offensifs, sauf que ça joue pas du tout de cette façon-là.
Oui, Griezmann n'avait pas le même rôle qu'Olysée.
Et que pendant 80 minutes, tu vois pas le jour parce qu'il y a pas de pressing et le bloc il est bien plus bas. Il a dit d'abord ça, il a parlé du pressing, il a dit l'équipe adverse doit faire des efforts pour récupérer le ballon. Mais c'est pas du tout des chances, ça, normalement. Là, pour le coup, si on regarde Doha, et on verra le nombre de fois ils ont eu une possession aussi importante qu'ils l'ont dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas. Donc, ça ressemble pas du tout au football qu'on a eu avec Deschamps pendant 14 ans. Bon, c'est nouveau, moi, ça nous plaît, on est très contents. De toute façon, on est que dans les compliments et les félicitations depuis le début de la compétition avec cette nouvelle équipe, mais même dans les matchs de préparation, on n'avait pas ça sur le terrain. On voyait pas ça de la part des Bleus. On voyait pas un pressing, on voyait pas une volonté de garder le ballon, on voyait volonté de récupérer aussi vite. On voyait plus une propension à jouer les transitions, alors que là c'est pas du tout ça.
Faut féliciter Deschamps
bien sûr, tant mieux, qui
manage très bien son équipe, mais par contre pour moi ça vient aussi des joueurs. Pour moi, quand je vois l'attitude de Ousmane Dembélé en mode finale de Ligue des Champions à Munich face à l'Inter, à l'entrée de la surface de réparation, je pense que c'est aussi quelque chose qui est impulsé par les joueurs parce qu'ils connaissent en club. Michael Olise, c'est aussi comme ça qu'il joue au Bayern.
Mais avant, il s'adaptait pas, même si les mecs en club jouaient d'une certaine façon.
Il a quand même l'intelligence de voir que au dernier Euro, l'équipe de France a été trop passive par rapport à ses capacités.
Peut-être il s'est dit, si on fait ça, en fait, on va encore buter, on peut buter en demi ou un truc comme ça. Et si on doit gagner, c'est comme ça.
En tout cas, ce serait de l'intelligence d'adaptation.
Exactement.
Et ça, on peut quand même lui reconnaître. Exactement. Je pense que là, il a vu peut-être que son système et sa façon de jouer, elle avait aussi des limites. Et que, notamment au dernier Euro face à l'Espagne, où ils ont failli faire illusion, mais où ils ont finalement été éliminés.
Ils ont fait promener tout le match.
Voilà. Donc là, il s'est dit, bon, là, j'ai le matériel. Écoute, on va la construire, la fusée. On va la construire. On va essayer d'aller le plus haut possible.
Exactement.
Parce que là, avec mon histoire de bloc, médian bas et de faire uniquement que d'attendre. En plus, le parcours fait qu'il a que des équipes, que s'il attend, si lui aussi attend, ça allait ressembler à pas grand chose. Et donc, il s'est dit, là, on a le matériel, on a le parcours.
Stop, Dayo ou pas Mécano est en direct avec Fabrice Hawkins.
Oui, d'ailleurs, on avait Didier Deschamps à l'instant qui nous parlait justement de l'animation, de la manière dont ça se passait. Encore une fois, le potentiel offensif parle sur ce match.
Oui, on sait qu'on a des très très bons joueurs, des joueurs de haut niveau, mais après aujourd'hui voilà, c'est le collectif. On l'a vu aujourd'hui sur le terrain. Comme je dis toujours, c'est les attaquants qui font le premier pressing. Donc on l'a vu aujourd'hui, on est tombé contre une très très grosse équipe. D'ailleurs, félicitations au Maroc. C'est jamais facile de jouer contre eux. Donc aujourd'hui, on a démontré qu'on était une grosse grosse équipe.
Vous faites encore un très très gros match derrière, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des offensifs, mais ça tient derrière avec William. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vis ce tournoi? On a l'impression que t'es pas inquiété depuis le début du tournoi.
Non, on s'entend tous très bien, que ça soit en dehors du terrain, sur le terrain. Et on essaie de démontrer aussi qu'on est ensemble, qu'on communique beaucoup, que ça soit en dehors du terrain. On veut toujours trouver les meilleures solutions pour nous. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'individualité. C'est le collectif qui parle aujourd'hui et je suis très heureux de cette performance-là.
Qu'est-ce qui peut vous arriver d'ailleurs, en fait? On a l'impression que...
Voilà pour Dayo Upamecano qui répondait à Fabrice. Dans un instant, on est de retour pour accueillir Florent Gautreau qui va nous rejoindre. On continue le débat jusqu'à 2h du matin ensemble, ensuite jusqu'à 5h. Ce sera l'équipe de New York qui prendra le relais. A tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 1h22 du matin, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là également. Et Florent Gautreau nous rejoint. Flo, bonsoir.
Salut et salut les gars, salut à tous.
Alors, Florent qui a brillé de mille feux sur BFM TV.
Tout à fait.
Quels étaient les propos sur BFM TV? C'était du sérieux? Est-ce que c'était à la hauteur de l'afterfoot?
C'était à peu près à la hauteur de l'afterfoot, mais c'était plus sur la joie, tu sais, et sur les supporters. Et ce qui est assez marrant de la part des supporters français, puisque la première fois, tu sais, qu'il y a des supporters dans la rue par rapport au tour précédent et à l'horaire du match. Et les supporters, en fait, il y a enflammade totale et ils enjambent la demi-finale. Et surtout, ils veulent les plus gros. Et ça, c'est une petite révolution interne en France. France. Tu sais, maintenant, on est un peu l'Allemagne d'une autre époque. On va toujours en demi-finale, et parfois en finale, et parfois on gagne. Et là, ils disent, on veut l'Espagne en demi pour venger l'Euro 2024, et on veut l'Argentine en finale pour venger le 2022. Donc, les mecs sont en fusion dans la rue. Donc, c'était la tendance.
Ça tombe bien parce qu'ils vont avoir la Belgique en demi et l'Angleterre en finale.
peut-être. Mais en tout cas, c'était pour te dire qu'il y a une sorte de... Ouais, il y a une sorte d'enflammade, tu vois, que moi je trouvais un peu dingue, surtout par rapport au match, parce que les gars disaient c'était incroyable, c'était fou, alors qu'en fait, bon, le Maroc, ils ont fait ce qu'ils ont fait ce soir. Il y avait rien de très incroyable, en fait. Il y avait une équipe qu'on annonçait comme un ogre, et puis le Maroc. Et moi, ce que je retiens, puisque vous avez eu Deschamps, là, au micro, Fabrice Hawkins, c'est la compo et c'est la façon dont le Maroc a joué, la compo du sélectionneur. Et d'ailleurs, Deschamps dit dans une petite phrase, j'étais, avec un sourire, j'ai été surpris par la compo de mon adversaire. Et moi, c'est sûr que cette compo, elle suintait la peur. Et je dirais des choses des bleus que je disais du PSG. Tu sais, on en a parlé avec Daniel. À un moment donné où les adversaires commencent à prendre peur, tu sais, avant même d'entrer sur le terrain. Bah là, la compo, la façon de jouer et le truc, qu'ils ont fait, qu'ils ont montré on va dire le peu de football qu'ils ont montré, c'est tellement typique d'une équipe en face qui fait très peur que, bah, effectivement, il n'y a pas eu trop de matchs.
T'as fait un bon parallèle avec l'Allemagne des grandes années, c'est-à-dire que aujourd'hui le football c'est un sport qui joue à 11 contre 11 où c'est souvent la France qui gagne quand même.
Ah ouais.
On le voit hein, quand même, c'est 4 finales sur les 7 dernières Coupes du Monde, c'est quand même complètement fou ce qu'on est en train de faire. Et c'est là où il faut quand même rendre hommage au football français, à tous ces clubs amateurs qui forment les joueurs. Alors malheureusement, on le dit assez dans l'after, l'état de nos droits télé, l'état de notre football de haut niveau, il est un peu en déliquescence, même si on arrive toujours à produire quand même des joueurs. Et ce qui est fait notamment par le football amateur, de sortir ces mecs, de les détecter eux-mêmes, puis de les pousser vers les centres de formation. Laisse-moi finir.
Pondérer tout
c'est,
ça.
C'est pas pondéré. C'est comme on l'a dit, il y a plus de 50 joueurs dans cette Coupe du Monde qui sont originaires notamment de l'Île-de-France.
54.
Et moi, c'est quand même ma région. Je suis ici depuis 43 ans, d'accord, même malgré un interlude aux Pays-Bas qui m'a bien servi. Mais quand même, je peux te dire que le travail qui est fait dans toute la France, mais surtout en Île-de-France, c'est monstrueux, c'est extraordinaire. Alors oui, on profite aussi d'une population qui adore le foot, avec des quartiers populaires où le football est encore joué dans la rue. On a de la chance en France parce qu'on a aussi des city-stades, parce qu'on a encore des choses, on a des futsals, on a plein de choses pour, on a des fives, enfin bref. Et je trouve quand même qu'il faut aussi quand même pointer du doigt ce football-là, ce football qui nous permet d'avoir ces joueurs-là, ces joueurs créatifs, ces joueurs alors différents. Et je finirai juste par dire qu'il y a vraiment un engouement autour, notamment grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a ce truc du complot dont on a déjà parlé qui est un peu dommage, qui est même très dommage. Mais par contre, je vois les jeunes générations, au moins, certes, elles intéressent quasiment pas à la Ligue 1, par contre l'équipe de France, par contre la Coupe du Monde, là il y a c'est de 7 à 77 ans, voire à 105 ans, tout le monde connaît aujourd'hui Michael Olise, tout le monde connaît un joueur comme Mateta, et aujourd'hui l'équipe de France, elle parle à tout le monde, et ça c'est...
Alors, bon. Kevin...
Fabrice, on doit le libérer, mais juste un dernier truc, parce que tu voulais nous raconter, Fabrice, la fin de ton interview avec Deschamps, là.
Ouais, qui est très bonnard, hein, Didier Deschamps. On sent qu'il est aussi sur la fin. Il reste deux matchs maintenant si ça va en finale. Et effectivement, il a le petit mot, il a le petit sourire pour les journalistes, encore plus ceux qui connaissent. Et c'est vrai que sur la fin de l'interview, quand on parlait de...
Ouais, il t'a demandé de me saluer, c'est ça?
Et dans la manière de jouer, non, en revanche, il a fait la blague en disant qu'il allait aligner 6 attaquants, 6 offensifs pour le prochain match. Donc il est vraiment dans un état d'esprit aussi très jovial, forcément très content de sa qualification en demi-finale. Et franchement, il est bien.
Bon. Fabrice, merci beaucoup.
Gilbert,
bravo.
Gilbert, oui. sur Deschamps, c'est intéressant ce que dit Fabrice, parce que je vous écoutais tout à l'heure et je suis assez d'accord avec l'analyse que vous avez faite. On en a déjà parlé récemment avec Daniel et Kevin sur, en fait, cette, là où il se rend compte qu'il ne peut pas continuer comme ça, notamment par rapport à l'Euro 2024. Mais finalement, je ne pense pas que ce soit une révolution, comme on a dit, parce que c'est un pragmatique au fond. Je pense que c'est une forme de révolution pragmatique. C'est-à-dire qu'il veut gagner, Deschamps. Et il s'aperçoit qu'il ne va pas gagner avec finalement ses idées d'habitude. Donc il fait cette petite révolution offensive, mais par pur pragmatisme, parce qu'il a les joueurs pour le faire. Pas simplement en disant panache, je sors par la grande porte. Non, il se ment
quand même un peu à lui-même, hein, parce qu'il dit à Fabrice, ah, mais je l'ai déjà fait les quatre
attaquants. Oui, mais ça c'est pour pas se déjuger. Ça, c'est parce qu'il est dans le déni.
Il dit, entendons-nous, ce que tu fais, c'est magnifique, mais tu l'as jamais fait.
Je suis d'accord, il est dans le déni par rapport à ça. Il ne faudra pas dire qu'on avait raison quand on se pinçait le nez devant l'Euro 2024. battre. Mais la vérité, c'est que c'est une révolution pragmatique, parce qu'en fait, c'est pas par panache, par goût du beau jeu, c'est par goût de la gagne. Et la gagne, elle, selon lui, et il a raison. Et moi, je pensais pas qu'il irait au bout comme ça. Il a peut-être raison. La gagne, elle se fait parce que les joueurs acceptent d'aller défendre, parce que Mbappé a fait des retours défensifs, parce que Dembélé a pressé ce soir. Et puis voilà, et même si Dembélé sauve son match avec son but, parce qu'il fait pas une grande première période comme la plupart des offensives, bah et voilà, il a raison pour ça. Donc c'est le révolutionnaire pragmatique, c'est un nouveau Deschamps.
Il y a un autre élément aussi, je pense qu'on va mettre en avant cette semaine aussi sur RMC, on va travailler là-dessus, mais pour comprendre aussi pourquoi cette équipe de France joue comme ça, pour comprendre l'animation, pour comprendre le bouleversement qu'il y a eu, il y a, et vous en parlez depuis tout à l'heure, cet euro qui a été manqué, notamment cette demi-finale contre l'Espagne, et derrière, il y a eu une grosse remise en question, il y a eu de grosses discussions. J'espère qu'on pourra rentrer dans les détails cette semaine sur RMC.
Et il faut peut-être dire à quel point Mbappé a pris les choses en main aussi.
Et qui ont aussi à un moment donné dit au coach, si on continue comme ça, ça va pas
tout faire. Et Mbappé a pris les choses en main, c'est lui qui a rassemblé tout le monde autour de lui.
Très
qui
bien
a dit, on jouera comme ça. Tu as parfaitement raison, il faut le dire.
Et ça on va en parler
mais
un peu
si
plus.
Deschamps a eu l'intelligence d'accéder à tout ça. Exactement. Pour construire ce groupe. Tant mieux, il ramasse les pièces du jackpot.
Ce n'est pas diminuer le travail de Deschamps de rappeler les faits. Et les faits, c'est que les joueurs ont peut-être aussi pris leur destin en main. Parce que quand je parle de Dembélé qui est en mode starting block à l'entrée de la surface de réparation, ça qu'on me dise que c'est vrai ou pas vrai. On regarde la vidéo 2018 après, quand on va Pogba après l'Australie qui dit au sélectionneur, mais coach, on n'a jamais travaillé le pressing. On est au deuxième match de la Coupe du Monde, quand même.
Ouais, bien sûr.
Donc, après, Kevin, il y a un truc intéressant.
Merci, Fabrice.
Salut, Fabrice. Les gars. Il y a un truc intéressant sur Deschamps et les joueurs, sur ceux dont Fabrice parle et ceux dont Daniel parlait sur Mbappé. En fait, dans toutes les grandes équipes de France, il y a eu à la fois un très bon sélectionneur, mais il y a eu aussi une équipe qui se prend en main. C'est-à-dire qu'il y a un mix. Si on a dit à une époque, c'est Platini qui fait l'équipe. C'était pas vrai. Hidalgo était très bon. Mais c'est vrai aussi que les joueurs entre eux mettaient plein de choses en place. Et toutes les grandes équipes, 2000, Jacquet, en 98. Bon, je parle pas de 2000 parce que là, pour le coup, c'était vraiment les joueurs qui faisaient le truc un peu tout seul. Ouais. Sans Roger Le Maire.
En 98. En 86, avec Henri Michel, les joueurs avaient pris en main. Platini était le patron. Mais ce que je veux dire, c'est que. L'Italie.
Oui, mais quand
c'est souvent été le cas en équipe de France.
Ouais, exactement. Mais quand tu gagnes, t'as 2006, quand même aussi le travail du sélectionneur. Et effectivement, ouais, mais tu vois, le pire, c'est que ça gagne pas parce que je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, un patron. Tu sais,
ça gagne pas.
Non, mais ce que je veux te dire quand même, c'est que moi, ma théorie, c'est pas que les joueurs doivent prendre tout seul et qu'ils doivent se débrouiller. Je veux juste te dire que le meilleur exemple, c'était Hidalgo Platini, comme là, on pourrait dire Deschamps Mbappé. Il est pas question de dire que Hidalgo faisait rien. Et de dire qu'aujourd'hui c'est tout grâce à Mbappé. C'est évidemment des chances en management, mais t'as raison. Si les joueurs à un moment donné disent, coach, je vous assure, on peut faire ça, et que Deschamps leur dit peut-être, ouais, mais dans ce cas-là, mec, va falloir défendre un peu plus. Ok, d'accord, deal. Tu vois, c'est peut-être un truc comme ça.
Mais de toute façon, tu n'as pas de grande compétition. La grande compétition, c'est un mois et demi où il faut vivre ensemble. Avant même de savoir, évidemment, c'est très important d'avoir des bons joueurs, de savoir comment tu vas jouer, mais si déjà les mecs ont pas envie d'être ensemble, encore une fois, je renvoie comme tout à l'heure, avant que tu arrives, on parlait de l'Angleterre, qui en termes d'individualité, dans son potentiel, était la seule nation qui peut rivaliser avec la France, mais comme ils ont pas pris tout le monde, justement pour des raisons de constitution de groupe, construire un groupe, vivre ensemble pendant un mois et demi, c'est un des trucs les plus importants dans les grandes compétitions internationales. Et c'est souvent des aventures humaines. Ça nous renvoie à l'Espagne, qui pendant des années se plantait parce que t'avais des mecs qui ne pouvaient pas vivre ensemble. Et le grand combat de Del Bosque à l'époque avait été de faire cohabiter les Barcelonais et les joueurs du Real.
Les Néerlandais aussi.
Les Néerlandais, on a vu toutes les histoires que ça a pu faire. Marcelo Lippi, quand je lui avais, pour le livre Secret de Creux, je lui avais demandé le secret justement de l'Italie 2006. C'est un groupe qu'il avait construit un an avant. C'est quand Totti se fout en l'air, je vais quand même te prendre et tu vas guérir. Et même si tu guéris pas, tu viendras avec nous. Toutes les histoires sont toujours les mêmes sur le groupe, sur des leaders à l'intérieur du groupe qui racontent la même histoire tous ensemble. Et comme tu dis, Flo, oui, il vaut mieux que le coach. Il faut évidemment que le coach adhère à tout ça et que ce soit une aventure collective. C'est pas un championnat, c'est pas
d'accord.
Une Coupe d'Europe étalée sur une année, ça n'a rien à voir.
Après, il y a un truc important, je vais même te dire et faire un peu quelque part le mea culpa, mais je regrette pas de l'avoir dit. Dans la constitution de la liste de Deschamps, il y a des choses qui me gênaient. Et aujourd'hui, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, comme il a voulu garder cette logique de groupe, il a gardé des joueurs comme Lucas Hernandez, dont on me dit qu'en gros c'est le tonton, mais au moins t'as compris qu'il joue pas, et même N'Golo Kanté, dont on me dit qu'il est très important dans le groupe, etc. Et hier, je me suis moqué un peu de ça parce que je me suis dit, ouais, c'est bon, bah t'as pas besoin de trois animateurs.
À ce propos, vous remarquez que Zaïre Emery est rentré.
Oui, mais Zaïre Emery, il a vraiment un rôle opérationnel pour le coup. Il joue pas, le pauvre, parce qu'il n'y a pas de place. Mais je veux dire, hier, je me moquais de ça en disant, t'as pas besoin de trois animateurs BAFA dans un groupe quand même de joueurs de haut niveau. Mais je comprends que Deschamps soit dit par rapport à Udol et compagnie, non, écoutez, moi, je vais gérer de toute façon, comme tu dis souvent, Daniel, avec 14-15 joueurs max, donc ça ne me gêne pas d'emmener un peu autour des gars dont je suis sûr et qui vont faire le lien et qui vont parler dans le vestiaire.
Bien sûr. Mm-hmm. Ouais, non, mais c'est très important, ça.
Dans un instant, on va parler du Maroc.
Des affinités.
Les gars, on va écouter.
J'ai pas répondu à Kevin sur son état, son petit bilan du football français. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses de vraies dans ce que tu dis, mais attention, le foot français va très très mal.
J'ai dit aussi, au haut niveau.
Oui, mais même pour les joueurs, n'oublie jamais quand même que ce qui fait gagner, c'est aussi le goût de la performance, l'apprentissage de la performance et de la grande compétition. Et tu vois, dans cette équipe de France, par exemple, un Upamecano parti très très jeune, un Olise qui tombe du ciel, qui n'est pas français, comme tu avais Griezmann pendant des années, qui n'est pas footballistiquement français. Et tu en as Saliba parti très jeune. C'est des jeunes qui, bon, après tout, là où tu as raison, c'est qu'ils sont...
sont quand même formés ici.
Ils sont
au moins préformés.
Préformés dans des clubs de souvent de la région parisienne, comme tu dis, où la compétition est très rude d'ailleurs.
Exactement.
C'est une des régions
très très hautes
où c'est très dur, où c'est très très compliqué avec de faire Lyon. Son trou. Donc quand tu as cette base là, mais malheureusement nous derrière, on ne peut pas leur apprendre la compétition et le haut niveau. Et à cause de quoi ? Parce que notre championnat est faible, parce qu'on n'a plus d'argent. Le seul club qui résiste, et qui résiste tout seul, mais parce qu'il s'est mis dans cette position, c'est le PSG. Et on a dans cette équipe de France, Barcola, Doué, Mbappé qui était là il n'y a pas longtemps, Dembélé qui est là, Zaïre Emery, des mecs qui, eux, côtoient le très haut niveau par leur club. Pour le reste...
Oui, mais le cocktail, pour le reste,
nos clubs professionnels n'existent pas.
Oui, mais nos clubs professionnels quand même forment les joueurs, le Stade Rennais.
Quand ils existent, ils sont dans les autres équipes.
Le PSG.
Ils sont dans les autres équipes. Et tu vois bien que ça marche pas aussi bien.
On est forcé de constater que le cocktail marche pour l'instant. C'est-à-dire
joueurs préformés
dans des très bons clubs amateurs, ensuite formés dans des très bons centres de formation.
Il faut pas tomber dans le piège de dire que notre foot va très bien.
Non, j'ai pas dit que le foot va très bien. J'ai dit le foot amateur, le foot de masse.
Oui, ça,
détection.
Oui. Parce que de toute façon, on a beaucoup de joueurs qui jouent.
Et le Stade Rennais, et le Paris Saint-Germain, et l'Olympique Lyonnais, et d'autres aussi, Lorient.
N'oublions pas la situation terrible parce qu'on est en pleine Coupe du Monde et on n'a pas le temps d'en parler.
Non, mais c'est pas pour ça qu'il faudra se galvaniser de notre football, on comprend pas pourquoi. Notre football, on comprend pas pourquoi on a que 100 millions ou 150 millions.
Mais justement, tu fais bien le dire parce que c'est là que c'est grave. Et n'oublions pas, je lui disais, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment le sujet et tout, mais la fameuse loi préparée par les deux sénateurs, ça fait un an qu'on en parle. Ça y est, ça a été voté, la commission paritaire et mixte est passée dessus. Tout est en ordre. On aboutit quand même dans cette histoire. On en reparlera plus en détail, mais la LFP va être dissoute. On en est là. C'est-à-dire que ce président de la LFP, sur qui on tape depuis des années, qui n'a pas voulu bouger, qui est soutenu par le PSG, il va être obligé de s'en aller. Au pire, il peut tenir en s'accrochant, il va tenir jusqu'en février. Si en février il est encore là, on va être obligé de dissoudre. La 3F va être obligé de dissoudre s'il ne veut pas lâcher. Et ce n'est pas sûr qu'il lâche. Donc là, déjà qu'il était en emploi fictif depuis pas mal de temps, là, il est encore plus en emploi fictif. La LFP, c'est mort. C'est dire où on en est arrivé. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Réjouissons-nous pour les Bleus.
Dans un instant, le Maroc. On n'a pas encore eu l'occasion de détailler ce qu'on a aimé, pas aimé côté marocain. Plutôt des choses qu'on n'a pas aimé d'ailleurs. Et sans doute que les supporters aussi. Dans un instant, on écoutera Mohamed Ouabi. Hamza sera avec nous également au 32-16. On se retrouve tout de suite dans l'After. On est là jusqu'à 5h du matin, bien sûr, comme toutes les nuits de l'After depuis le début de la Coupe du Monde.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 1h37 du matin, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, c'est la nuit de l'After jusqu'à 5h. Florent Gautreau qui ne pouvait pas s'empêcher de donner son avis. Et oui, parce que c'est ce qui fait la force de Florent, ça. Il a fait du BFM TV, il a retrouvé ses premières amours, la télévision.
T'as mis ta plus belle chemise ?
T'as mis ton polo ou ta chemise ?
Une petite chemise.
Ouais. Veste ou pas de veste ?
Pas de veste.
Aïe, en plus, à la télé, en la télé pendant le Tour de France, ça te rappelle des bosses.
Florent, c'est l'époque chemise. Pourquoi ? Parce que respect du téléspectateur. Oui, j'ai jamais compris pourquoi. Respect du téléspectateur.
Veste quand on va à BFM pour mettre la veste.
Tu verras, ça passait bien. J'étais chill. J'ai écouté votre débat. J'ai écouté votre débat avec Sam Umtiti. Ouais, je pense que ouais. Voilà, j'étais dans un mode un mix entre Jean-Louis Tour et Samuel Umtiti.
Ouais, mais de toute façon, Flo, avec tout le respect, je suis pas sûr que tu puisses enfiler le t-shirt échancré, Marcel.
C'est vrai. Ok.
Même si t'es très sportif,
même
si pour un daron, tu te tiens bien, mais. Le t-shirt échancré Marcel, ça va pas être pour toi.
Okay. Écoutez Mohamed Wahbi, les gars, sélectionneur du Maroc, tout à l'heure à l'issue du match.
Coach, I just want to know how you're feeling right now. How's the team feeling? There's a lot to be proud of.
Comment vous vous sentez maintenant et comment se sent l'équipe?
Honnête qu'on a joué contre une très bonne équipe.
Personne. Tout le monde dort. Hein.
On a beaucoup souffert en première mi-temps. On a eu l'arrêt de Bounou sur le penalty. En deuxième mi-temps, on défendait mieux. Et puis surtout, avec le ballon, on était plus serein aussi. Et c'est clair qu'à un moment, on était beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on avait l'impression qu'en première mi-temps, des joueurs recherchaient leur second souffle. Et on a vu que ces mêmes joueurs-là ont bien commencé la deuxième mi-temps. Donc voilà, après, le but, il vient d'une action un peu... Ça va, un ballon partagé. Certains s'arrêtent parce qu'ils voient une main. Il y a une main. Je ne sais pas si elle doit être sifflée ou pas, j'en sais rien. Mais et donc ça fait que voilà, après une action individuelle de Mbappé qui marque. Et puis voilà, c'était dur à la fin, mais je crois qu'on doit continuer à y croire, on doit continuer à travailler, on doit continuer aussi à travailler la base, à faire en sorte que quand il y a des blessés, quand il y a des joueurs qui sont moins frais, qu'on puisse avoir un plus grand vivier. Et ça, c'est voilà, on va continuer, on va pas s'arrêter là. On est très déçus, on voulait plus, mais il faut l'accepter.
You have a very young team, a lot of prospects, a lot of talent.
Vous avez beaucoup de prospects dans cette équipe, c'est positif pour le futur.
Bien sûr que le futur, si on continue comme ça, le futur va être beau. Ça veut pas dire qu'on voulait pas gagner aujourd'hui, donc on a tout fait pour essayer de gagner ce match. On est tombé contre une bonne équipe, je le répète. Mais on sait qu'on doit continuer à travailler, qu'on a un grand vivier, qu'on a des jeunes joueurs. Donc bien entendu qu'on reste confiant, bien entendu qu'on va pas se laisser abattre. On est très déçus aujourd'hui, mais on va pas se laisser abattre pour le futur. On va continuer à travailler.
Moi, voilà, je pense que Aznavour était meilleur que Mohamed Wahbi, puisqu'on a entendu Aznavour derrière lui. Parce que moi, je suis très déçu finalement de ce qu'il a proposé, parce qu'il s'exonère un petit peu de tout. À mon avis, il va y avoir des gros débats. Je sais pas si t'as vu un truc, c'est que sur les plans de coupe qui le montraient en gros plan, les Marocains dans le stade l'ont sifflé à un moment donné, parce que les supporters n'ont pas compris. Pourquoi l'équipe jouait comme ça
Moi j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu caca culotte les Marocains. Mais bien sûr, ils n'ont pas voulu y aller. Quoi.
Et Wahbi, et là Wahbi.
Je ne sais pas si c'est l'expression qu'il faut utiliser. Toujours est-il que il a tenté quelque chose. Il y a eu un coup. Donc effectivement, quand toi tu changes quelque chose et que l'autre ne change pas, c'est-à-dire que tu t'adaptes. Donc ça indique que tu as une crainte. Maintenant, son coup, puisqu'on l'avait, on en a parlé dans l'avant-match, on était là, je dis. Pourquoi pas? Ça m'intéresse de voir, mais je m'attendais à ce que, en mettant la densité comme ça au milieu, il y ait de la projection, notamment sur les côtés, ou que ça libère Hakimi. Bref, je m'attendais à que ce soit accompagné d'une initiative. Or, ça n'a pas été accompagné d'initiative, c'était juste là pour, en gros, geler le match. Et en ça, j'ai été non seulement déçu, mais surpris parce que, dans l'avant-match, il y a quelques jours, quand on a su que la France tomberait sur le Maroc, quand certains disaient oui, est-ce qu'ils vont refaire le coup de 2022, j'avais dit mais jamais de la vie, c'est pas Wahbi, il a pas travaillé tous ces derniers mois, le Maroc a pas progressé comme ils ont progressé ces derniers temps pour revenir en arrière ou pour changer leurs principes ou pour ne pas jouer, à quoi ça servirait? On m'a dit ouais, mais s'il ouvre, il va se retrouver. Oui, très probablement. Bon, OK, t'aurais perdu 3 au lieu de 2,
enfin
bon, bref, peu importe.
Quand même.
Oui, mais exactement, on est d'accord. Donc
moi je pense que
ma déception, elle est double en fait.
Faut pas sous-estimer l'impact qu'a l'équipe de France et le niveau de cette
dans la prépa psy.
Non, mais
oui,
même.
Je suis d'accord.
Pas que dans la prépa. Quand tu arrives dans le match, tu peux avoir un plan de jeu. Mais en fait, voilà, le boxeur, il t'a rentré dedans, il t'a mis 2 pêches d'entrée. Et toi, t'as eu peur et t'as fini par reculer. T'as concédé un pénalty, ton gardien l'arrête. Mais derrière, en deuxième mi-temps, tu crois que t'es un peu mieux. Tu commences à.
Ça veut dire que t'avais peur avant le combat.
Bien sûr.
Oui, t'étais Rocky face à Clubber.
T'avais peur pendant le combat. Et surtout, surtout pendant le combat, t'as eu peur.
Ouais, mais tu vois ce qui m'a gêné.
Et au moment où tu t'es cru un peu mieux, parce qu'il dit qu'en deuxième mi-temps, il était un peu mieux, et bah, le talent d'un Mbappé qui te met un but venu d'ailleurs et derrière t'as jamais été vraiment en possibilité, mais je suis pas sûr que ce soit le conditionnement du staff marocain qui qui n'est pas permis aux joueurs de se transcender.
Moi, je pense que quand tu finis avec...
Pour moi, ils sont juste moins forts.
Quand tu finis avec 5 tirs dans un cadre... Oui, mais quand tu es moins fort et que tu fais sentir à tes joueurs que tu es tellement moins fort que je vais mettre une compo comme celle-là et qu'ensuite...
En plus, tu mets une couche culotte.
Et qu'en plus, tu mets une couche culotte et qu'après, tu as sans doute demandé à tes joueurs d'attendre pour essayer de les faire sortir et de lancer les attaques seulement quand vraiment ils viendraient. Franchement, je pense pas que ce soit que les joueurs et que les deux actions qui leur aient fait peur. T'as raison là-dessus, c'est aussi une raison supplémentaire. Moi, je suis très déçu parce que on était ensemble, Kevin, tu sais, quand on a vu Cap-Vert-Argentine. Et la leçon que j'ai retenue de Cap-Vert-Argentine, c'est simplement un truc, c'était une leçon d'ambition des Cap-Verdiens. C'est-à-dire de se dire, perdu pour perdu, nous on va essayer d'aller attaquer. Et évidemment qu'il fallait pas y aller comme ça à la hussarde et faire n'importe quoi. En ce sens, les Marocains avaient raison d'être organisés. Mais en ne tentant rien, tu te retrouves dans le cas de ce qu'on disait avec Deschamps, tu sais, nous, pour nous, à l'Euro. C'est-à-dire il faut absolument gagner le tournoi parce que sinon tu ne retiens rien. Et ben moi ce soir, j'ai entendu du supporter marocain, et à juste titre, se dire, bah, t'as rien tenté, tu t'es même pas donné la chance si tu veux d'essayer de faire quelque chose contre cette équipe de France. Et à la fin, tu dis oui, ils sont très fort, il y a peut-être une main au début de l'action d'un but.
Si tu dois provoquer un scénario un peu bizarre, j'en sais rien, une passe en profondeur qui occasionne un carton rouge, ça peut arriver ce genre de truc-là. En jouant comme ça, même ça, tu ne peux jamais viser dessus.
Ils se sont pas projetés.
Un vieux corner pourri, dévié dans le but.
Bah, je vais te donner un exemple.
Tu n'attaques jamais.
Vous ne jouez pas les Marocains sur les 10 premières minutes, en fait, ils essaient de jouer.
Ouais, très peu.
Ils essaient.
Ils essaient de jouer leur jeu.
Mais en fait, ils sont en dessous.
Daniel et ensuite Hamza au 36-16.
Ils sont capables d'être meilleurs.
Maintenant, il y a une limite évidente, c'est que oui, t'as pas assez de joueurs offensifs. Ça, on est d'accord là-dessus. Si ta vedette d'attaque, c'est Brahim Diaz. Il a fait une action dans le match, prends toute sa Coupe du Monde. On a de l'affection par Brahim Diaz parce que c'est un joueur technique, machin, tout ça. Mais en fait, il va falloir dire à un moment que c'est juste un joueur moyen, de temps en temps capable d'un beau geste technique.
Je pense qu'en plus, il est traumatisé parce qu'il tripote un peu le ballon comme il faut.
Mais de toute façon, le gars n'est titulaire nulle part. Il joue pas beaucoup au Real. Quand il est avec le Maroc, moi, je le trouve pas transcendant, quoi. Je trouve jamais qu'il fait des trucs fous dans les matchs, Brahim Diaz. Et si c'est lui ton joueur offensif le plus dangereux, bon bah à côté t'as quoi? T'as pas de numéro 9? T'as quoi en fait? T'as des milieux de terrain qui sont des bons joueurs de ballon.
Après il leur manque leur meilleur joueur Saïbari depuis le début de la compète. Bon bah c'est ça.
Ils ont dû changer la charnière, c'est le meilleur,
vrai. Il était pas là aujourd'hui.
Hamza est là au 32-16, supporter du Maroc. Salut Hamza.
Salut, bonsoir tout le monde.
Merci d'avoir patienté Hamza. Bon, tu reproches à Wabi aussi une sorte de frilosité?
Tout à fait, moi, sur ce match-là, ça a été une publicité mensongère. Pendant 3 jours, on a entendu « Attention, la France peut être dérangée par ce Maroc-là. »
Oui, c'est plus le Maroc de 2022.
Ça va être plus ouvert. Et finalement, non, tu vois un Maroc totalement frêle. Très déçu sur ce match-là de Bouadi. Ça fait 2 matchs inexistants.
Ah oui, Bouadi.
Bouadi, mais Bouadi,
il sort d'ailleurs avant la fin. Hein.
Bouadi, je l'ai dit, il a fait ce premier match qui a fait parler jusqu'à la planète Mars. Derrière, ça a été nettement moins bien. C'est un jeune joueur. Il faut lui laisser le temps. Il y a des jeunes joueurs dans cette équipe. Peut-être qu'elle sera encore meilleure à la prochaine CAN, à la prochaine Coupe du Monde. Mais il y a des jeunes joueurs. Il va falloir continuer à travailler. Il y a beaucoup de choses. Attention, on est en train de parler d'une équipe qui est dans le top 8 monde. Maintenant, on est en train de parler d'une vraie bonne équipe, mais qui doit s'améliorer. Bon, alors les attaquants, entre celui qui manquait, c'est Barry, mais il y a également Igaman qui peut être une solution, qui n'était pas là parce qu'il était blessé. Il y en a. Il y a des pistes de travail, incontestablement, mais rien n'est acquis. Hein.
Et aussi sur cette compo-là, quand j'ai vu la compo qui est sortie, j'ai dit, bon, je pense qu'on va subir. Ça a été rien à voir. On remet Mazraoui dans l'axe, et voilà le résultat. L'expérience a fait parler. Penalty. Salahidine sur cette Coupe du Monde.
Mazraoui qui avait été excellent latéral par ailleurs depuis le début de la Coupe du Monde.
Tu changes ta charnière, tu vois, dans ce match-là, en mettant Mazraoui qui l'a déjà fait, hein, d'ailleurs, dans sa carrière, certes. Mais effectivement, t'as raison sur le penalty. Lui, il n'est pas défenseur central. Les automatismes dans une défense, c'est compliqué. C'est vrai que le défenseur central remplaçant au dernier match contre le Canada, je crois, avait pas été bon. Donc je comprends ça. Mais néanmoins, c'est un manque de sérénité qui est ressenti par les joueurs quand tu mets cette compo-là. Tu dis à tes joueurs, ouais, en fait, on est un peu flippé. Donc, je remets Mazraoui dans l'axe. Donc, je mets Salah Eddine à gauche. Je mets comme ça devant. Moi, ça sentait la peur et la trouille.
Après aussi, franchement, bon, sur le parcours du Maroc, on n'a rien à dire. Ils ont fait leur parcours logique. Tu tombes sur une équipe de France des ténèbres qui sont totalement cliniques devant le but comparé au Maroc qui a pas de neuf. Ça a été très très compliqué
et
depuis.
Tu n'as pas d'occasion non plus dans ce match.
Ah non, il y a rien. Il y avait rien à gratter. Il y avait rien à gratter pour le Maroc. Mais bon, franchement, sur ce match-là, j'en veux un peu à Wabi, mais voilà, il est arrivé il y a 3 mois. Il a du temps pour construire. Il a le temps de trouver un numéro 9 peut-être sur le bon coin. Donc c'est dommage sur ce match-là. Voilà, bon, moi je suis.
Mais ce qui est malheureux, c'est qu'au final, le Maroc a fait moins bien qu'il y a 4 ans.
Oui, c'est mais ça, moins bien parce exactement. Que t'as joué à la France en voilà. quart.
Non, bah oui, c'est possible pour ça que je vous le dis.
Pour moi, ils n'ont pas fait moins bien.
Le manque de caractère aussi. Les joueurs de 2022, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y avait.
T'as pas Naïef Aguerre de derrière.
Il manquait.
Pour moi, ils n'ont pas fait moins bien. J'accepte pas ce bilan.
Ouais, d'accord, mais il n'y a pas Hakim Ziyech. Moi, je suis pas d'accord pour.
Moi, j'accepte. Il nous ressort Hakim Ziyech.
Non, mais moi, je suis pas d'accord.
Il n'y a pas Mustapha Hadji non plus.
Non, mais j'ai entendu dire beaucoup cette semaine. Ouais, le Maroc de 2026 est bien meilleur que le Maroc de 2022. Moi, non, moi, je suis pas certain.
Comme c'est dit, ce match-là, je l'ai pris pour une publicité mensongère parce qu'on a entendu toute la semaine, attention. Voilà le résultat.
Non, mais je dirais que Hamza, le problème, non, attendez, c'est que comme
dit, mettez pas tout à la poubelle.
Non,
mais pas
à
la poubelle.
Non, mais pas la poubelle. Mais je pense juste.
Moi, tu perds en quart et tu perds contre peut-être le futur vainqueur.
Je suis d'accord. Je pense simplement que, en fait, je pense quand même que ce Maroc-là. Était très très beau et faut pas jeter à la poubelle comme dit Daniel ce qu'on a vu et parce que le jeu du Maroc était très intéressant. Je pense juste que Mohamed Wahbi surtout qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions dans le jeu avec cet effectif-là et notamment avec la blessure de Saïbari et le reste en défense centrale. C'est un peu ça le résumé. Mais il faut pas jeter cette coupe du monde parce que moi, c'est une des équipes qui m'a le plus plu en termes de jeu. Donc, il y a absolument rien à jeter. Je suis d'accord avec Daniel par rapport à 2022. C'est une très bonne coupe du monde également. Peu importe que ce soit quart, demi, tu t'en fous de ça. Ça dépend qui tu joues dans ton parcours.
Merci Hamza. Merci Hamza. On va parler un peu d'Hakimi, parce qu'on a Rachid au 32-16 qui veut nous parler d'Hakimi. Rachid, bonsoir.
Oh, bonsoir à l'équipe. Daniel,
salut Rachid.
Vous allez bien ?
Ça va et toi ?
Un petit peu déçu, mais bon. Après, voilà, on a joué contre une très très grande équipe de France. Donc, je ne m'attendais pas à une défaite, mais au moins que l'équipe nationale du Maroc propose un jeu, récupère son identité, parce que depuis le début de la Coupe du Monde, on avait l'habitude de voir une équipe du Maroc pressé tout de suite, surtout sur le premier match contre le Brésil. Mais là, ce soir, sur ce match-là, j'ai pas du tout reconnu l'équipe nationale. Et moi, il y a un joueur où j'arrive pas, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, on a toujours tiré sur Brahim, sur les autres joueurs, mais lui, il sort toujours du lot. Alors que pour moi, sur cette défaite
d'aujourd'hui... Tu veux dire, il passe entre les gouttes, tu veux dire ?
Exactement. Pour moi, oui, c'est ça. Et pour moi, on parle pas assez de lui parce que, en fait, le match d'aujourd'hui, c'est un match catastrophique de sa part. Il n'y a pas de projection de main, de jeu sur son côté.
Ah, ça, c'est sûr qu'on l'a pas vu monter. Ça, c'est...
On l'a pas vu du tout, en fait. Pour moi, il a une très grande part de responsabilité sur ce match. Parce qu'en fait, certes, on a une équipe jeune avec des Bouadi, des Alainaoui, des Jessim. Normalement, c'est lui le taulier, c'est le capitaine. En fait, le rendement qu'il donne avec l'équipe nationale et le rendement qu'il donne avec le PSG, c'est le jour et la nuit.
Oui, non, mais d'accord. Moi, je trouve que vous êtes beaucoup trop dur.
Il n'est pas entouré de la même façon.
Vous êtes beaucoup trop dur avec Hakimi. À la base, c'est un latéral droit. Le mec, il se retrouve avant-centre. Il est au milieu de terrain. Il fait beaucoup de choses quand même pour l'équipe. Il se donne à fond.
Ouais, mais Kevin, il nous a habitués avec le PSG quand même.
Mais le PSG, tu vas pas comprendre.
C'est pas la même équipe.
C'est comme Ousmane Dembélé avec le PSG et avec l'équipe de France.
Je le sais très
c'est
bien,
pas la même chose. Hakimi, c'est un joueur de collectif qui sublime un collectif par ses qualités individuelles. Ça reste un leader, ça reste un exemple. Moi, le seul truc où je l'attends un peu mieux, c'est sur à tirer les coups de pied arrêtés. Là, j'entends, il n'y a pas de souci. Il peut mieux les tirer, il a le pied, il sait faire. Mais sinon, je vous trouve très dur. Après, moi, j'ai parlé hier avec Walid, il me dit, ouais, Mazraoui, c'est le meilleur Marocain. Bah, aujourd'hui, Mazraoui.
Ah, bah oui, moi, je suis tout à fait d'accord.
Pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est lui qui provoque le penalty. Il défend très mal sur Kylian Mbappé. Il ne doit pas se mettre au sol. Voilà. Donc, ils ont.
Non, mais ils ont tous été moins bien. El Ainaoui, moins bien. Bouadi, moins bien.
Ils sont tous.
Peut-être que là, t'as senti la jeunesse.
Moins bien, hein.
Tu sais, des fois, dans la vie, tu joues contre meilleur que toi, en fait. Et des fois, tu perds.
Non, mais ça, c'est une réalité. Il n'y a aucun problème. Mais en fait, c'est plus l'identité de jeu de l'équipe nationale. Moi, exemple, quand je vois les matchs précédents qu'on a joués, hormis celui contre le Canada, où la première période, le Canada nous a bouffé, j'ai pas peur de le dire. Mais en fait, le non-match de la sélection marocaine,
c'est pas possible de toujours revenir en arrière. Certes,
moi je suis d'accord. Ne rien tenter, ne pas essayer de dire, même sur le premier quart d'heure, en disant on va tenter quelque chose. Alors après tu dis, ah oui, regarde, ils se sont découverts, ils ont pris un but. Ok, bon bah si le foot c'est de faire ce qu'ils ont fait ce soir et de dire à la fin, voyez, on a limité les dégâts, on a joué contre une équipe très forte. Moi je trouve que c'est pas ce à quoi on était habitué là depuis le début de la Coupe du Monde et l'histoire qui était en train de se raconter. Après bon, t'as peut-être trop d'absents pour pouvoir faire quoi que ce soit, mais le foot à un moment donné, si c'est juste de se dire, comme tu dis Kevin, ouais il y a des mecs plus forts, donc il y avait pas grand chose à faire, bah tu le sauras pas si t'as pas tenté, ne serait-ce qu'une frappe ou un truc. Je vais donner un exemple, ils s'en sortent miraculeusement avec le très bel arrêt de Bounou, mais le péno était mal tiré. Et à la 49e minute, dans les arrêts de jeu, ils ont un coup franc, côté droit, tu sais. Une faute très proche, une faute de main proche de la surface. Hakimi prend le coup franc, c'est une catastrophe, alors que c'est pas pour un pied droit. Et il a Brahim Diaz pied gauche pour aller mettre la balle devant le but. Et pour... Même là, t'as l'impression qu'ils avaient pas envie d'aller marquer. Moi, j'ai absolument pas,
il honnêtement, pas compris. Il a mis le même avec le PSG l'année dernière.
Ouais, il a tiré à 3 mètres à droite, là, du but. Donc là, il mec, il n'y avait pas d'angle. Mais bon, moi je veux bien, hein, mais j'avoue que j'étais très très déçu. Franchement, tu peux être légitimement déçu d'un Maroc comme ça. Bon, maintenant ça n'empêche pas qu'en face t'as effectivement une équipe plus forte. Mais si t'as une équipe plus forte, tente un truc, essaie de marquer un but, essaie de les déstabiliser, de les faire douter, à mon avis.
Rachid, est-ce que tu considères quand même que la Coupe du Monde est réussie?
Oui. Après, c'est sûr, le nouveau format, c'est quart de finale. Si on revient sur l'ancien format, c'est quand même, ça revient quand même une demi-finale. Mais oui, objectivement, on a rempli notre mission. Et moi, c'est la seule critique que je peux apporter sur cette sélection, c'est sur le jeu. Moi, exemple, quand il y a des joueurs comme Jessim qui rentrent, bon, moi, j'aime bien le petit Strasbourgeois. Il n'y a rien à dire dessus. Mais il est
remplaçant à Strasbourg, il rentre dans un match du mondial. T'as tout dit.
C'est pas possible. Je vois Amin Sbaï, il n'a jamais joué un match de Coupe du Monde, il le fait rentrer contre la France. J'ai rien contre Amin Sbaï, mais voilà. Moi, je vais reprendre ce qu'a dit l'ancien auditeur. Moi, exemple, sur le coup franc d'Hakimi, un Hakim Ziyech, il le met tout de suite. Je l'aime beaucoup, Hakim. J'ai suivi toute sa carrière depuis qu'il a joué à Heerenveen, Twente, l'Ajax. J'ai suivi toute sa carrière. Et ce mec-là, depuis qu'il a repris avec le championnat du Maroc, avec le Wydad, c'est le meilleur buteur du club, alors qu'il est venu en janvier. Donc, il te faut des mecs d'expérience. Je dis pas que Hakim Ziyech doit être titulaire dans cette équipe, mais tu le fais rentrer 20 minutes, il peut te débloquer quelque chose. Il a un pied gauche magnifique, et je pense que Kevin Diaz l'a déjà vu jouer plusieurs fois en championnat néerlandais.
Le grand Hakim,
exactement. Oh là là. Son pied gauche, c'est incroyable. Normalement, sur le coup franc d'Hakimi, pardon, Hakim, il le met tout de suite. Et je suis, moi, le championnat marocain. Hakim, sur 5 coups francs, il en a mis 3. Donc il te faut des joueurs d'expérience. Moi, j'aime bien l'idée de partir.
Oui, après, bon, peut-être qu'Hakim Ziyech dans le championnat marocain, c'est pas non plus la Coupe du Monde, tu vois.
Il a sa place. Hein. Moi, quand je vois
dénigrer le championnat marocain,
il a entièrement sa place que par rapport à Jessim Yassine, hein. Même Boufal. Hein. Boufal, regardez, on a eu la blessure d'Abdé.
Ah, Boufal qui a joué au Havre.
Ouais, donc okay. Voilà. Après, voilà.
Bah, écoute, Rachid, merci.
Je souhaite un très bon courage à l'équipe de France. On va supporter. Hein. C'est quand même l'équipe de France. Donc, les trois devant, c'est fantastique. Mbappé, pour moi, il gagne la Coupe du Monde, c'est Ballon d'Or.
En effet, c'est possible. Merci Rachid, bonne soirée. Merci, tiens, à propos d'Mbappé, l'affaire paraguayenne continue. Aujourd'hui, on a l'avocat de la célèbre sénatrice, désormais célèbre pour ses propos racistes, tristement célèbre. Alors lui, l'avocat, il dit, on va attaquer Kylian Mbappé. Pour diffamation et l'obliger à comparaître devant la justice de son pays. Ouais. Il demande l'extradition de Mbappé.
On va parler de cette folie et de cette dingo là.
Il faut arrêter d'en parler.
Par contre, j'ai appris un truc dans les autres dingueries d'arbitrage là, c'est que depuis 82, un arbitre anglais n'a pas le droit de diriger l'Argentine en Coupe du Monde et inversement, un Argentin ne peut pas diriger l'Angleterre à cause des conflits des années 80, les Malouines. Moi, je savais pas, je connaissais pas cette règle qui existe toujours, alors que la guerre des Malouines est quand même terminée depuis un petit moment.
Oui, mais en Argentine, c'est quelque chose dont on parle encore dans la dernière chanson de la Incha Argentine.
Tout à fait.
La nouvelle chanson de l'Argentine, là, elle évoque encore ça. Donc.
Et ça permet de souligner aussi, Gilbert, toutes les dingueries qui sont dites sur les désignations des arbitres. L'arbitre argentin a été excellent.
Flo, le et c'est vrai que,
tu vois,
là,
il a marqué. Tu vois, il a pas refusé le péno. Alors j'ai vu,
Texier a été bon avec l'Argentine.
Voilà, j'ai vu quand même des trucs parce qu'il avait laissé trop de temps entre le sifflet, tu sais, le tir. Alors j'ai commencé à relire. Non, j'ai dit les mecs, arrêtez quoi. Voilà, il a fait son match. Il était très présent, très proche de l'action. C'est un arbitre très expérimenté qui avait été le seul non-européen à être choisi pour arbitrer l'Euro 2024 au passage.
Nicolas Jamin est là. Oui. Nico toujours à New York avec son équipe. Oh, il y a de l'ambiance là.
Il y a de l'ambiance. On a donné rendez-vous. Ils sont venus les supporters français, quelques Marocains aussi. Ça va être le feu.
Ah, c'est
Eddy, le frérot. Max Chano est là, l'autre frérot. Walid sera avec nous depuis Paris, bien sûr. Plein de supporters, plein de surprises d'invités également. Tout le monde est là, des supportrices françaises, des supporters marocains.
Ça se régale, hein, Niki.
Écoutez derrière.
C'est des Marocains qui arrivent. Voilà.
Ah, je crois qu'elle a demandé, mais où est Kevin Diaz?
C'est pas ça. Absolument pas. Kevin n'a laissé aucun souvenir à personne ici de toute façon.
Très bien, Kevin.
Très bien, c'était le but.
À vous les gars, jusqu'à 5h du matin. Bonne soirée, la nuit de l'after continue jusqu'à 5h avec Nico, Maxime et tout le monde. À demain.